Bien, comme ça va venir, je commence.
Il sait déjà.
Dans les pays plats, notamment la Hollande, ces pays tout plats, il y a des canaux. Et quand on veut traverser les canaux avec un véhicule, eh bien, il faut des ponts. Et ils ont imaginé des ponts en deux parties de chaque côté qu'on peut relever pour laisser passer les bateaux, puisque c'est tout plat, et qu'on peut rabaisser quand c'est pas... quand on veut laisser passer les voitures. Et c'est un principe qui a été utilisé, vous l'avez certainement déjà entendu et connu, c'est que lorsqu'on veut se rencontrer, il faut que les deux parties abaissent leur pont pour que le passage, la communication puisse être possible. Et un jour, on a été agressé par des voisins, verbalement, parce qu'on avait commis je ne sais pas tout quelle faute, et puis assez méchamment, et ils ont terminé en disant: nous on a baissé notre pont, maintenant c'est à vous de baisser votre pont. Et puis moi ça me paraissait un peu bizarre, il ne me semblait pas qu'on avait jamais relevé notre pont vis-à-vis d'eux, qu'on avait fait tout ce qu'on pouvait faire, et puis résultat, ça ne marchait pas. Alors je me suis souvenu que les physiciens, je ne suis pas physicien, mais les physiciens, quand ils sont devant un problème, ils commencent par faire un croquis. Ils mettent sur le papier, par dessin, leurs éléments pour essayer d'y voir plus clair. Et c'est aussi ce que j'ai fait. Et j'ai commencé par dessiner un canal. Et puis j'ai mis un pont que j'ai appelé « toi ». C'est l'autre qui a fait des virages pour arriver jusqu'au bord du canal, pour trouver l'endroit idéal pour chercher le passage. Je suis désolé, avec le crayon ça va, mais avec l'ordinateur je suis un peu moins à l'aise, si bien que mes dessins sont pas très bien sortis.
On les voit bien.
J'ai fait quelques photocopies, si vous voulez, après coup. Oui, au cas où. Alors, un, il vient d'un côté, l'autre, de l'autre côté, cherche aussi un passage adéquat pour se rencontrer, mais si on n'est pas en face l'un de l'autre, ça ne va pas marcher. Par chance, on peut des fois arriver par communication, enfin, à être bien l'un en face de l'autre, et puis avoir les deux ponts qui s'abaissent et puis qui ne font plus qu'un seul pont sur lequel on peut passer. Dans ce cas, c'est super magnifique, tout fonctionne bien. C'est même assez intéressant parce qu'il n'y a personne qui domine l'autre, chacun fait sa part des choses, il n'y a pas quelqu'un qui a tout tort et puis l'autre qui a tout raison, on fait des compromis et puis on arrive à se mettre d'accord de cette façon-là. Et puis il semble que tout va bien, mais je n'étais pas très convaincu quand même par cette solution. Quand on réussit à être bien en face, ben voilà, ça va, mais c'est quand même, ça reste assez fragile. Il suffit de peu de choses pour qu'un pont se relève un peu, puis que le courant soit coupé, qu'on ne puisse plus avoir de communication. Et finalement, je me suis dit, mais ça, c'est de la philosophie. C'est arranger humainement, avec des moyens humains, de se mettre d'accord pour arriver à un certain résultat. Et le monde nous offre plein de ce genre de philosophie pour arrondir les coins, pour qu'on puisse se rencontrer. Par exemple, la culture s'impose, et puis la culture d'aujourd'hui, si on est tous d'accord, eh bien finalement, si on se plie à ce que la culture nous propose, on va réussir d'avoir une certaine uniformité. D'autres ont inventé l'évangile de la prospérité. Si tout le monde se réjouit de tout ça, de ce que Dieu veut nous donner, sans s'enquérir des conditions, eh bien, tout ira bien. C'est de nouveau une sorte de philosophie. Victor Hugo, quand il parle de des philosophes, il parle des philosophes. Philosophes. Et j'ai trouvé que c'était assez bien placé. Alors que faire si on n'arrive pas à se mettre d'accord? Qu'est-ce que nous dit la Bible? Si tu nous mets le suivant. Dans Colossiens, versets 8 à 10, l'apôtre là nous met en garde contre « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ». On peut se faire amadouer, prendre au jeu, et puis finalement, c'est une vaine tromperie. Par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Si on cherche à obtenir la tranquillité, la satisfaction par des moyens humains, par nos bonnes œuvres, par des choses qu'on pourrait produire, eh bien, on tombe dans ce phénomène de la philosophie, de la vaine tromperie, et on passe à côté de Christ. Ce deuxième verset qui dit à peu près la même chose dans Hébreux, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Alors que faire? Comment continuer? Et là, j'étais dans mes réflexions, alors comment faire pour pouvoir passer d'un à l'autre? Et il y a ce verset qui vient en avant, cette image-là qui est assez sombre. J'avais aussi fait un dessin une fois avec ce verset de Corinthiens, 1 Corinthiens 8, 2, qui nous dit « Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faut, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. » Souvent on se dit « Ah ben je sais, c'est bon, j'ai trouvé. » Eh bien c'est la preuve qu'on n'a pas encore connu comme il faut connaître, on ne connaît encore pas bien la chose. On a besoin de s'humilier et de venir devant le Seigneur pour vraiment le connaître. Et là, dans cette suite de réflexions, un verset m'est venu à l'idée. C'est intéressant. On dit qu'il faut lire la Bible, puis on lit la Bible, puis après on oublie ce qu'on a lu, et puis on part dans la journée, et puis on se dit que ça ne sert à rien de lire la Bible, quoi. Finalement, j'oublie tout. Mais le Seigneur, par sa parole en nous, c'est assez étonnant, mais d'un coup, dans la situation, dans la circonstance, comme une bulle qui sort du fond de l'eau, qui remonte à la surface, et ploup, il y a une parole qui nous revient à l'idée. Et là, eh bien, cette parole m'est revenue à l'idée. Jésus dit, je suis le chemin. Le chemin, ce n'est pas un pont qu'on construit, ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à bâtir par notre religiosité, par notre bonne façon de vivre, par tout ce qu'on pourrait accumuler. On peut même accumuler des bonnes œuvres et puis les empiler à travers la rivière pour finalement pouvoir penser constituer un pont. Mais Jésus nous dit, c'est lui, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la solution que Dieu nous offre. On peut avoir beaucoup de problèmes, on a tous des difficultés, des contrariétés, des situations à résoudre dans nos vies qui sont multiples. Certains c'est financier, d'autres c'est la santé, d'autres c'est un problème de travail, d'autres c'est une relation. Et puis des fois on a plusieurs de ces problèmes en même temps. Et puis Dieu, il a une seule solution, systématiquement la même solution. Et cette solution, ce n'est pas un peu plus de patience une fois et puis un peu plus de savoir une autre fois. Mais il nous propose Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le chemin et c'est Jésus qui peut, qui est la solution pour quel que soit le problème. Et notre devoir, notre solution, c'est justement de venir à Jésus, de chercher à le connaître. Alors, j'ai continué mon dessin, si tu nous passes le suivant, puis après on revient peut-être. J'ai continué mon dessin, puis je dis, voilà la solution. J'ai dessiné un pont qui est solide, qui est d'une pièce, Jésus-Christ. Il y a même une barrière de chaque côté pour qu'on puisse, que ça soit sécurisé, qu'on ne puisse pas tomber. Et c'est un chemin qui est finalement relativement facile à trouver. Dans Jérémie, on a ce verset, Jérémie 29, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Alors, dans un sens, c'est vrai que Jésus est facile à rencontrer. On peut le trouver, moyennant qu'on désire le chercher. Il n'y a pas besoin de faire des grandes recherches, mais il faut y mettre son cœur. Et Jésus se laisse trouver, et ça paraît assez facile. Mais j'étais encore qu'à moitié satisfait de mon dessin, parce que je me disais, voilà, on trouve Jésus, et ça marche. Mais, on peut peut-être revenir au verset d'avant. Ainsi donc, frères, puisque nous avons... au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, c'est ce qu'on a partagé et chanté tout à l'heure, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés, d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Plutôt que chercher des compromis, alors utilisons le chemin que le Seigneur nous a proposé, nous a préparé, qui est un chemin agréable, qui est un chemin facile à trouver. Et pourtant, j'étais encore pas satisfait de mon dessin. Parce que voilà, entrer la Bible nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Alors mon chemin, il est un peu trop large. Il était quand même un peu large, et puis, dans un sens, c'est juste, Jésus, il se laisse trouver, il se laisse approcher, et puis on peut... avoir de la joie à le connaître, à le rencontrer. On peut venir au culte, et puis tout le monde nous fait des sourires, c'est gentil, c'est sympa, on chante bien, on a du plaisir, ok. Mais à un moment donné, on va se trouver devant la parole. Et cette parole, ça va finalement être en quelque sorte un mur, une façon... qui va nous poser des conditions, qui va nous empêcher d'avancer, de passer vraiment de l'autre côté. Et pourtant, dans la parole, il y a une porte, et cette porte, elle est petite, elle est étroite, et puis je crois qu'elle a la forme de la croix. Dieu nous invite à nous considérer mort avec Christ, crucifié avec lui, pour pouvoir accéder à ce chemin, pour pouvoir accéder au Père. Par cette porte étroite, il n'y a pas la place de passer beaucoup. On doit laisser de côté notre ego, on doit laisser de côté nos acquis, ce qu'on croit savoir. On doit laisser de côté notre honneur, on doit laisser de côté... Ça ne passe pas. Mais on peut être crucifié avec Christ et là, la porte est libre, la porte est ouverte. Et puis on peut avancer dans ce chemin de la foi, dans ce chemin qui nous mène à la vie éternelle, qui nous assure de rencontrer un jour le Père comme un Père céleste, comme quelqu'un qui nous reçoit, et pas comme un juge. Je crains qu'il y ait trop de gens qui trouvent Jésus, qui viennent jusque là, qui trouvent le chemin, mais qui butent devant ce que la parole nous demande. En fait, elle n'est pas exigeante, la parole, elle nous demande de tout laisser, et puis elle exige rien de nous. Ce que François nous partage le mercredi soir, là, lecture accompagnée. On a vu dans Marc ce verset suivant, où il est dit, c'est l'histoire de ce jeune homme riche, voilà, qui vient à Jésus, il vient sur le pont qui est plus là, il vient et il s'approche, et puis il est plein de lui-même, plein de ressources, plein de tout ce qu'il a accompli, il dit, qu'est-ce que je peux faire encore pour hériter du royaume des cieux. Jésus ne lui dit pas, t'as rien compris, moi il me semble que ce n'est pas logique. Et vouloir faire pour hériter. Pour hériter, il faut être, il ne faut pas faire. Si on veut faire, c'est qu'on mérite. Mais Jésus ne rentre pas dans cet aspect-là. Il lui dit, tu veux faire, alors, pour ceux qui veulent faire, il y a la loi. Et il cite plusieurs commandements de la loi. Mais ce jeune homme, imbu de lui-même, il va dire, mais c'est bon, moi j'ai tout... J'ai accompli tout ça. Et là, il se trouve devant la croix, devant la porte étroite. Jésus dit, il te manque une chose, c'est tout ce que tu as en trop. Vends-le et puis donne-le aux pauvres. Si cet homme riche avait été seulement plein de monnaie, si son compte en banque avait été rempli, il n'avait pas besoin de vendre. Il pouvait juste le distribuer aux pauvres. Mais Jésus dit, vends-le. Donc il a des acquis, il a des choses qu'il doit se débarrasser pour pouvoir en faire bénéficier ceux qui considèrent comme pauvres. Quand on a une certaine religiosité, on pense être brave, et puis finalement, rapidement, on regarde les autres, on dit, bon, ils n'ont pas ce que moi j'ai, c'est des pauvres. Et bien Jésus nous dit, abandonne tes acquis, abandonne tes prérogatives, fais-en crédit à ceux que tu méprises, et puis là, tu peux passer par la porte et puis suivre le Seigneur. Et là, Jésus dit, il est difficile pour ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans ces lectures accompagnées, là, on a vu que cette expression, un chameau passé par le trou d'une aiguille, c'était une façon de dire qui était connue à l'époque pour dire c'est impossible. Aujourd'hui, on dirait c'est impossible, oublie. Là, il disait, essaye de passer, c'est comme vouloir passer un chameau par le trou d'une aiguille. Alors on a beaucoup discuté là autour, écrit, etc. On a dit, ah, c'est une porte à Jérusalem qui est petite, et puis le chameau, il devait se mettre à genoux pour passer, mais ça ne marche pas. En fait, Jésus dit là, c'est impossible. Mais nous, souvent, on aimerait quand même bien faire passer le chameau par le trou de l'aiguille. Alors on agrandit un peu l'aiguille, le trou de l'aiguille, on réduit le chameau, ou bien faire au moins passer un petit bout du chameau par l'aiguille. Mais c'est impossible. Seul Dieu peut le faire. C'est ce que Jésus dit. Pour Dieu, rien n'est impossible. Pour nous, il faut oublier. D'ailleurs, si on veut apporter quelque chose pour notre salut, on arrive beaucoup trop tard. Il y a 2000 ans que c'est fini, que c'est classé, que c'est réglé. Jésus a dit, tout est accompli. Vouloir dire, mais j'amène un petit peu de mon bonnes œuvres, un petit peu de mon humanité, quelque chose que je peux un peu payer peut-être. Eh bien, Jésus dit, c'est impossible, ça n'arrive à rien. Seul Jésus peut le faire et c'est Dieu qui peut le faire. Maintenant, il y a encore une autre, ce deuxième verset qui vient en fait avant, c'est un autre cas, dans Marc aussi, où un père vient à Jésus avec son fils, et puis son fils est possédé, Et il est désespéré, les disciples n'ont rien pu faire. Et puis ce père dit, si tu peux. Et Jésus lui répond, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et là, alors, c'est vraiment bien sorti le mercredi soir. Je me fais un petit peu de pub. Mais c'était vraiment intéressant. Parce que si on lit ça comme ça, on se dit, bon, ben alors si j'ai une bonne foi, si j'ai la foi en ordre, tout doit me réussir. Je le dis, je fais, c'est comme une... On prend un peu la foi comme une baguette magique, puis si on la tient dans le bon sens, on peut obtenir tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas ce que dit ce verset. C'est une traduction hein, de la Bible en français. Alors, il y a une subtilité de grammaire et puis de conjugaison là, dans la langue originale que je suis bien incapable de vous expliquer. Mais ça veut dire que celui qui croit, le croyant, il croit que tout est possible pour Dieu. Et quelle libération c'était de se dire, si on prie et puis que ça ne donne rien, on se dit, bon, ben, j'ai pas la foi comme il faut. Ce n'est pas une question de foi, c'est une question de puissance de Dieu. Dieu peut le faire. Et si on a la foi, eh bien, notre foi, qu'elle soit grande ou petite, qu'elle soit de bonne qualité ou pas, ça ne change rien à la puissance de Dieu qui peut tout faire. Rien ne lui est impossible. On a juste à avoir un tout petit peu de foi, puis même si on n'a pas de foi, ben Dieu peut le faire quand même. Ça ne dépend pas de notre qualité, ça ne dépend pas de nos capacités, ça ne dépend pas de notre avancement spirituel, ça dépend de ce que Dieu est. Et on est invité à tout abandonner pour passer par la porte étroite, pour juste se confier en Dieu tel que nous sommes, dans notre situation, sans chercher à se faire plus beau qu'on est, sans chercher à gagner des points, sans chercher à ranger le pont pour que ça puisse passer ailleurs que par Jésus-Christ. Ça ne marchera pas. Alors, il nous reste une image, dernière chose. On est placé devant ce choix. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et Dieu, dans le Deutéronome, il nous invite à choisir. Et c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est choisir. Ou bien, parce que ces deux chemins sont devant nous. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis. Alors, on veut choisir. Et Dieu nous donne encore un conseil. Choisis la vie, choisis Jésus, choisis de me suivre, choisis de passer par, d'abandonner tout ce que tu crois savoir, tout ce que on t'a inculqué pour suivre Jésus. Et ça, c'est entre nos mains et c'est notre choix, c'est notre responsabilité aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va choisir Jésus-Christ? Choisir, et comme on l'a entendu tout à l'heure, c'est pas un choix qui se fait une fois pour toutes, mais c'est dans le courant de la vie, tous les jours, on rencontre des situations où on est placé devant des choix. On choisit Jésus, on choisit nos moyens personnels, notre capacité, où on choisit de se débrouiller tout seul, Dieu nous dit choisis. Et c'est toi qui choisis et tu es responsable de ton choix. Dieu ne nous force pas. La dernière fois que j'étais ici devant, j'ai pris notre couple comme exemple, je le reprends encore une fois, mais un jour, j'ai rencontré ma future épouse, mais arrivé un moment où j'ai dû dire est-ce que tu veux mon épouse, est-ce que tu es d'accord? J'étais pas très sûr de mon histoire parce qu'elle aurait très bien pu me dire mais tu m'as regardé, ou elle a dit tu crois quoi? Mais je l'ai pas mis dans un coin avec le revolver sur la tempe en disant est-ce que tu veux venir mon épouse. Peut-être que là elle aurait dit oui, mais pour voilà, ça aurait été forcé. Eh bien, ce oui qu'elle m'a dit ce jour-là, il a de la valeur pour moi et il a de la valeur à long terme et il engendre de ma part une confiance absolue. C'était de son propre choix, elle pouvait dire non. Et peut-être qu'elle aurait bien fait, mais c'est une autre histoire. Mais voilà, maintenant, c'est comme ça, le choix a été fait. Alors avec Jésus, la même chose, il nous dit, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux pas, tu choisis, tu es responsable de ton choix. Que le Seigneur nous donne la sagesse pour faire les bons choix dans la vie, chaque jour, et finalement se retrouver sur le chemin étroit, sur ce chemin qui mène à la, au Père, sur ce chemin qui mène à la vie. Je vous propose de terminer par la prière. Père Céleste, nous te remercions pour ce grand salut que tu as accompli pour nous à notre place il y a 2000 ans. Nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire pour le mériter, que tous nos mérites sont sales devant toi, n'atteignent pas ta sainteté. Et nous profitons de ce chemin nouveau et vivant que tu as inauguré, Seigneur Jésus, au travers du voile, en mourant à la croix à notre place, pour satisfaire la justice de Dieu et pour que nous puissions nous appuyer sur ton salut pour l'éternité. Merci pour ton amour, merci pour ta parole qui nous enseigne encore aujourd'hui et merci pour le Saint-Esprit qui nous met dans la tête des paroles au moment opportun. Merci pour ta présence, merci pour ton conseil. Amen.
Amen.